Bonjour Charles Sapin.
Bonjour.
Vous venez de publier Les Moissons de la colère aux éditions du Cerf, ce que vous appelez une plongée dans l'Europe nationaliste. Votre livre, c'est presque un carnet de voyage analytique dans cette Europe gagnée par le nationalisme. Un nationalisme que vous vous refusez de qualifier de néo-fasciste ou d'extrême droite. Pourquoi ?
L'idée n'est pas du tout de faire la police sémantique. C'est juste qu'en tant que journaliste, je trouve le terme d'extrême droite assez inconfortable. Pour une raison simple, c'est que on ne connaît pas de définition scientifique unique au terme extrême droite. Moi, j'ai regardé ça un peu de près, surtout que ça fait 5-6 ans que je couvre ces forces nationalistes en France ou à l'étranger. Et si vous voulez, on en trouve 20-30 définitions, et ce qui fait que ce terme est subjectif dans le sens où que vous soyez insoumis, socialiste, LR ou même Reconquête, si vous employez le terme d'extrême droite, vous n'allez pas parler de la même réalité. Et c'est problématique pour un journaliste, parce que quand on écrit, on a besoin d'être compris tout de suite. Il faut pas que nos lecteurs aillent se renseigner sur qui écrit pour savoir où est-ce qu'il se situe, pour comprendre de quoi il parle. D'autant que la science politique nous donne un terme qui, pour le coup, est très objectif, qui est celui de nationaliste, qui rattache ses forces à une filiation de plus de 2 siècles avec une vraie ligne historique et idéologique cohérente.
Donc on va parler ensemble de partis nationalistes. Alors ce qui frappe d'abord à la lecture de votre livre, c'est la dynamique. En France, la progression du Rassemblement National ressemble à une longue marche, puisque ça a commencé dans les années 70. Mais les nationalistes européens que vous avez fréquentés, si j'ose dire, que vous avez rencontrés, interrogés, ont connu ces dernières années des résultats électoraux rapides, très rapides.
Très rapide, oui. En fait, il y a un effet, quelque chose qui, malgré les frontières, malgré les histoires nationales et les modes de scrutin, il y a un même scénario qui se répète dans beaucoup de pays européens, c'est-à-dire que cette droite traditionnelle est témoin soit de son propre effondrement, soit de l'effondrement de son allié historique centriste. Et qu'est-ce qui se passe alors ? Pour conquérir le pouvoir ou pour s'y maintenir, cette droite traditionnelle est contrainte de faire tomber le cordon sanitaire, finalement les digues qu'ils avaient érigées contre les forces nationalistes, pour leur proposer des coalitions afin de rester au pouvoir ou de le conquérir. C'est ce qu'on a vu au niveau local l'année dernière en Espagne. Vous avez une poussée nationaliste du parti Vox et qui a conduit en fait à ce qu'il soit présent dans toutes, si vous voulez, les instances régionales, jusqu'à diriger avec la force, la droite traditionnelle, quatre régions. C'est ce qu'on a vu au niveau national en Finlande, en Italie, en Suède.
Vous me dites en clair que l'alliance de la droite classique avec des partis sociaux-démocrates ou sociaux-libéraux fait qu'en fait la droite nationaliste a un boulevard et qu'elle elle surfe sur ce flou des frontières politiques face à elle.
Non, c'est-à-dire qu'on est en train de... En fait, ce que j'ai observé, c'est que dans un certain nombre de pays européens, vous êtes au bout d'un cycle. Depuis, en gros, la crise financière, vous avez eu le clivage entre droite et gauche qui a été passé un peu au second plan, avec un nouveau clivage qui était d'un côté les forces libérales pro-européennes, qui rassemblaient centre-gauche et centre-droite, face à des forces populistes. Bon, ça a été le cas pendant 10 ans, 15 ans. C'est un cycle qui se termine dans pas mal de pays européens. Ce n'est pas le cas de la France, ce qui est intéressant, c'est une exception. Mais dans pas mal de pays européens, vous voyez un retour de la droite. Pourquoi ? Parce qu'il y a une crise du centre et que les droites traditionnelles ont le choix entre soit continuer de s'allier avec le centre et la gauche et dans ce cas perdre des électeurs et dans ce cas, en effet, paver un boulevard pour les forces nationalistes, soit faire un revirement d'alliance, faire tomber les digues, s'allier avec les forces nationalistes pour gouverner avec elles. Qu'est-ce qui se passe, juste, c'est intéressant, qu'est-ce qui se passe quand vous avez ce qu'on appelle communément une union des droites ? Eh ben, les forces nationalistes ne sont pas du tout amenuisées, ils ne se font pas aspirer par les forces de droite traditionnelles, bien au contraire.
C'est elles qui aspirent.
Exactement. Elles sont crédibilisées, elles voient leur base électorale élargie, et finalement, elles supplantent peu à peu les forces de droite traditionnelles qu'elles étaient venues suppléer.
Il y a un exemple que vous donnez dans le livre qui est très intéressant et que les auditeurs de Radio Classique ne connaissent pas nécessairement, c'est l'exemple suédois, où là, on a quelque chose d'assez prodigieux qui s'est passé.
Ah oui, c'est un cas qui est impressionnant. Vous avez finalement une force nationaliste qui s'appelle les démocrates de Suède, qui a été créée en 88 par d'authentiques néo-nazis. Bon. Donc ostracisé, évidemment mis de côté. Le parti s'est dédiabolisé. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? L'échiquier politique traditionnel n'a pas voulu prendre en compte cette dédiabolisation et a continué à la mettre de côté, de l'ostraciser et de lui faire des procès extrêmement moraux. Sauf qu'en faisant cela, il y a eu un retournement. C'est-à-dire que les Suédois se sont lassés de cette logique de diabolisation de ce parti nationaliste. Et même, voyant des partis qui perdaient de la crédibilité de plus en plus, parce qu'ils avaient peu de résultats, cette logique de diabolisation, le fait de mettre un cordon sanitaire, de refuser de traiter ce parti nationaliste comme les autres, a finalement permis à ce parti à se poser en parti anti-système, système devenu honni par un certain nombre de personnes, et voire à placer ce parti comme seul parti d'alternance véritable.
Ils ont gagné les élections, mais ils ne sont pas allés au gouvernement.
Oui, alors en fait, si vous voulez, ils sont arrivés donc avec plus de 20% des voix lors des élections générales l'année dernière, en deuxième force du pays, très proche des sociaux-démocrates qui dirigeaient le pays depuis plus d'un siècle. Et ce qu'ils ont fait, quelque chose d'assez habile tactiquement, c'est qu'ils ont proposé à la droite, qui était arrivée très loin derrière, troisième, en disant, vous savez quoi, on fait une coalition ensemble. Comme ça, on vous permet de revenir au pouvoir, ce que même dans vos rêves vos plus fous, c'était impossible. Et nous, on ne demande pas grand-chose. À vous les postes, à vous la lumière, à vous le gouvernement. En revanche, on garde la main totale sur tout l'agenda politique, sur l'ordre des réformes. Ce qui fait qu'ils sont dans une situation de force, c'est eux qui ont la main politique sur la situation du pays. Si le gouvernement échoue, ce sera de la faute de la droite traditionnelle. Si le gouvernement réussit, les nationalistes suédois diront c'est grâce à nous. De toute façon, lors des prochaines élections, tous les sondeurs prévoient une victoire franche des démocrates de Suède.
Charles Sapin, les moissons de la colère plongées dans l'Europe nationaliste, est l'invité de la matinale. Il publie ce livre chez Cerf. Charles Sapin, vous avez compris si les raisons de la colère et du vote pour ces partis nationalistes sont les mêmes d'un pays européen à l'autre. Est-ce que c'est se réapproprier les valeurs culturelles de l'Europe ou les racines judéo-chrétiennes de l'Europe? Est-ce que c'est un vote anti-immigration? Est-ce que c'est de la xénophobie? Est-ce que c'est la séduction opérée par les leaders de ces partis? Est-ce que c'est les mêmes raisons dans tous les pays européens?
Alors évidemment, chaque pays a une situation politique singulière avec des ressorts de vote qui lui sont propres. Maintenant, il y a un truc qui m'a quelque chose qui m'a frappé quand même dans ce tour d'Europe, c'est des ressorts communs très puissants. Toutes ces forces nationalistes ont comme premier ressort la faillite des partis traditionnels à apporter des réponses pérennes au sujet, au problème de l'immigration, que ça soit par l'intégration ou le contrôle des flux. Ça, c'est quelque chose de très important. La meilleure preuve, d'ailleurs, c'est que l'un des seuls États membres où il n'y a plus de force nationaliste, où vraiment elle est dans les marges, c'est le Danemark, où vous avez le pouvoir social-démocrate qui a adopté des réformes parmi les plus dures sur l'immigration. Bon, ça, c'est le premier ressort. Vous avez un second ressort qui est très important, qui est la prégnance nouvelle des sujets identitaires. C'est-à-dire la volonté de défendre un mode de vie vécu comme en danger par un risque islamiste ou un risque finalement de réforme anthropologique ou sociétale radicale. Ça, c'est très important. Quand je suis allé au Portugal, j'ai parlé avec le numéro 2 du parti et je lui ai un parti qui a fait x10 en 3 ans, enfin un truc ahurissant. Et je lui ai dit, mais est-ce qu'il y a eu un moment, il y a eu un bond? Il me dit, le moment où on a enregistré le plus d'adhésions dans notre parti, c'est très simple, c'est le moment où le Portugal a désigné une personne transgenre comme candidat à Miss Univers. Elle avait remporté Miss Portugal et donc comme candidat Miss Univers. Et là, si vous voulez, il y a une réaction des Portugais. Des Portugais qui étaient fidèles aux forces de droite traditionnelles se sont radicalisés, se sont dit « je ne veux pas d'une personne transgenre pour représenter mon pays dans une compétition de beauté » et qui sont venus, en fait, renforcer cette
voie nationaliste. Donc, pas uniquement des problèmes d'insécurité qui sont classiques et qui, j'imagine, alimentent ces votes, mais l'insécurité culturelle compte énormément. Ce qu'on apprend aussi dans votre livre, parce qu'on ne le rappelle pas assez, c'est que 16 de ces partis nationalistes sur 27 dans les pays européens sont au pouvoir, ils sont aux manettes, soit dans des gouvernements nationaux, soit dans des gouvernements locaux.
Alors, 16 sur 27, dans 16 États membres sur 27, vous avez une force nationaliste qui a participé à un gouvernement au niveau national ou au niveau local depuis les années 2000, en sachant qu'au niveau 2000, zéro pays de l'Union européenne connaissait cette situation. Et c'est une situation qui s'accélère. C'est-à-dire que chaque année, vous avez 2 ou 3 pays de plus qui tombent. On voit une pression très importante. Je prends juste même les pays où historiquement vous avez le plus de raisons pour que les forces nationalistes soient cornaquées, mises en marge, il y a une vraie tentation. Je prends l'exemple de l'Allemagne avec l'AfD, qui est un parti nationaliste, si vous voulez, qui est donné en tête dans deux Länder. Là, il y aura des élections en septembre, donc Thuringe et la Saxe. Et si vous voulez, s'ils arrivent en tête dans ces Länder, la question va être très importante pour le parti de droite traditionnel, la CDU, savoir ce qu'ils font. Est-ce qu'ils coalisent ou est-ce qu'ils sont dans l'opposition?
Alors, il y a un concept qu'on apprend aussi en vous lisant, c'est cette expression de romanisation des barbares. Ça nous vient évidemment d'Italie. Giorgia Meloni arrive au pouvoir et elle ripolline, elle affine son programme pour qu'il soit compatible à la fois avec les attentes des électeurs, mais avec un ancrage européen assez classique de l'Italie. Romanisation des barbares.
Mais totalement. C'est un terme qui n'est pas de moi, qui est du politologue italien Giovanni Orsina, qui est prof à l'université de la Louis à Rome, et avec un sens de la formule exceptionnelle. Romanisation des barbares, cela veut dire que des forces nationalistes, plus elles s'approchent du pouvoir, et a fortiori quand elles le conquièrent, sont obligées d'abandonner les pans les plus radicaux de leur programme. Pourquoi ? Parce que face aux contraintes diplomatiques, financières, européennes, elle privilégie le pragmatisme pour avoir des résultats pour ses électeurs.
C'est ce qu'on appelle la dédiabolisation en France, un petit peu.
Sauf que là, ça va plus loin, puisque en fait, Giorgia Meloni, on le voit, a fait une campagne de rupture par rapport à son prédécesseur, Mario Draghi, pour finalement, une fois arrivé au pouvoir, se mettre totalement sur ses pas.
Il y a une question que je voudrais vous poser, qui est très prégnante en ce moment, c'est l'alignement ou pas sur les États-Unis ou sur la Russie. En tout cas, sympathie vis-à-vis des États-Unis, sympathie vis-à-vis de la Russie. Pour le coup, ils sont pas du tout alignés sur ces questions-là. En France, le Rassemblement National a toujours eu une défiance, comme la tradition de droite nationaliste française vis-à-vis de l'Alliance Atlantique, alors que les pays d'Europe centrale, eux, se défient énormément de la Russie.
Ah, totalement. Mais finalement, c'est vous soulignez là peut-être l'un des principaux points de clivage entre ces nationalistes. Parce que ces nationalistes ne se ressemblent pas tous, vous avez deux grandes familles. Il y a deux logiques. Vous avez les nationaux conservateurs de pays qui ont une tradition atlantiste. Je pense à Giorgia Meloni, très proche des États-Unis et premier soutien de l'Ukraine face à la Russie. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une vision civilisationnelle et donc un peu occidentaliste. Ce qu'elle voit, c'est que les pays européens qui sont boutés hors d'Afrique, l'Azerbaïdjan contre l'Arménie, Israël contre le Hamas et évidemment Russie contre Ukraine, tout ça forme qu'un seul conflit, c'est l'Occident contre le reste du monde, et il faut défendre la civilisation occidentale. Bon, en plus de raisons qui sont propres au pays, vous avez la Pologne, après la domination soviétique, on comprend très bien qu'ils ont une peur bleue de la Russie et que c'est l'ennemi juré. Et qui peut les protéger de la Russie ? Les États-Unis, donc l'OTAN.
A contrario, il y a la Hongrie.
Et à contrario, la Hongrie, pour des raisons encore une fois nationales, c'est-à-dire que vous avez la Hongrie est un pays de 10 millions d'habitants, complètement sans accès à une mer et dépendant du gaz russe et si vous voulez voilà. Et donc vous avez par exemple le Rassemblement National et les partis qui ne sont pas nationaux conservateurs mais nationaux populistes ont bien avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a une tradition un petit peu russophile, ont eu pour beaucoup de partis des liens avec le parti Russie Unie de Vladimir Poutine. Donc c'est une vraie différence entre eux.
Les moissons de la colère, Charles Sapin, c'est paru aux éditions du Cerf, lecture précieuse pour saisir l'ampleur, la soudaineté et anticiper les phénomènes nationalistes en Europe, tous très différents. Charles Sapin, merci.
Merci à vous.
À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et nos esprits libres du mardi. Lucie Robquin, rédactrice en chef aux Échos, et Christophe Barbier, éditorialiste.